Bien, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons lancer cette matinée. Il y a beaucoup de problèmes de circulation à Poitiers ce matin, visiblement, mais bon, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle journée de réflexion à l'espace Mendès France. Donc, Didier Moreau, je suis directeur de cette maison. Et avant de passer la parole à Jean-François Cerisier, qui représente l'Université de Poitiers, mais qui également, avec ses nombreuses casquettes, est un compagnon de route de notre centre de culture scientifique. Puis merci à Pierre Mouniécune d'être là. C'est une vieille histoire aussi entre l'espace Mendès France et Pierre sur ces interrogations que nous avons sur ce grand domaine du numérique. Je voulais simplement, en termes d'introduction, redire deux, trois petites choses. Vous remercier d'être présent. Nous avons déjà commencé les débats et les échanges hier. Beaucoup de questions entre le social, l'économique, la culture, l'éducation. On voit bien que le numérique suscite des débats qui sont dans une autre sphère, on appelle ça transversaux. Et on se pose un certain nombre de questions. Alors pourquoi l'espace Mendès France présent sur cette thématique ? Le numérique pour nous est un objet de discussion, d'échange, mais également de support, hein, puisque notre centre est là pour diffuser un certain nombre d'éléments concernant les avancées technologiques, les avancées scientifiques. Mais le numérique pose aussi un certain nombre de questions, et peut-être encore plus en notre période actuelle, ces questions, il s'agit de les échanger et puis de les tricoter ensemble, parce que entre les pratiques individuelles, les usages collectifs se posent de plus en plus de problèmes. Je crois que c'est la langue d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Et le numérique, au-delà des grandes envolées technologiques, le numérique pose désormais un certain nombre de problèmes. Alors, discours sur la méthode, pourquoi l'espace Mendès France, depuis 5 ans, s'attache à travers ses forums de fin novembre systématiquement de poser des questions sur des problèmes de société. C'est parce qu'il nous semble de plus en plus évident que les communautés d'experts se resserrent sur elles-mêmes. Les experts sont de plus en plus experts. Et en fait, au gré des avancées, on se rend compte que nos concitoyens ont beaucoup de problèmes pour se rattacher à ce qu'on appelle le progrès. Sur le numérique, il ne se passe pas un mois sans que de nouveaux objets arrivent, sans que de nouvelles applications et propositions soient proposées à toutes et à tous. Et on se rend compte à l'évidence que tout ça mérite un retour collectif et un questionnement. Donc l'espace Mendès France, au-delà de son rôle de présentation de ces avancées technologiques, se doit aussi de poursuivre son travail sur ce qu'on appellera une éthique de notre société à l'égard des objets et des sujets que proposent sciences et technologies. Voilà pourquoi nous sommes présents. Mais deuxième aspect, l'espace Mendès France n'est pas n'importe où, il est à Poitiers, dans une agglomération qui, historiquement, a ancré dans son territoire une université. Au-delà du fait qu'elle soit ancienne, cette université a largement développé, et je pense que Jean-François en dira un mot, des éléments qui, à travers le numérique, permettent d'en faire une université ancrée dans sa société et dans le monde contemporain. Et puis, Poitiers a la particularité, alors c'est pas parce que je dirige cet établissement, d'avoir un centre de culture scientifique. Quand j'étais président des centres au niveau national, nous étions 37, nous ne sommes plus que 13. L'État a abandonné tous ses financements à la culture scientifique en France. Et cette maison est toujours présente. Alors pourquoi est-ce qu'elle est toujours présente ? D'abord parce que les élus de Poitiers ont toujours été attentifs au fait qu'entre science, culture, éducation et modèle de développement social, les sciences dures et les sciences humaines à égalité, soit présent sur la place publique. Tout à l'heure, j'étais en voiture et je regardais dans les différents supports d'information de Poitiers que nous avions encore les affiches de la fête de la science. Nous avons l'affiche sur la COP21. Hein, je vous rappelle que l'exposition qui est présentée à l'Espace Mendès France sur la COP21 est présente dans 37 pays différents en ce moment. Et l'affiche sur le forum numérique. Ça veut dire que la science et les interrogations sur le fait scientifique sont présents dans l'urbanité qui est Poitiers et son agglomération. Et ça, c'est une chance. dont il faut largement profiter. Et cette communication, pour moi, elle permet de sortir à travers ses visuels, à travers ses titres, elle permet de sortir de l'entre-soi et d'aller au-delà des présentations où les communautés se retrouvent. Donc ce matin, on vous propose à travers nos échanges d'être partie prenante de ce débat à venir, qui va être de plus en plus, à mon avis, touffu, autour du numérique, le numérique comme objet, le numérique comme sujet, le numérique comme fait de société. Donc voilà, donc je vous remercie de votre présence. Nos matinées de réflexion sont toutes enregistrées, beaucoup écoutées, hein, si j'ai regardé les statistiques de notre site internet. Et on compte sur vous également pour contribuer à travers vos interventions, pour contribuer à faire de ces débats une réflexion pour les médiateurs scientifiques et techniques que nous sommes, mais également pour permettre d'avancer dans notre travail de mise en société et de mise en culture des faits techniques. Donc encore une fois, pour toutes ces raisons, merci à vous de nous accompagner sur ce travail à long terme. Jean-François, je vais te laisser la parole. Jean-François Cerisier, vice-président de l'Université de Poitiers. Et je voulais saluer aussi en lui celui qui a construit une chaire numérique qui s'appelle Mortimer. Un très beau nom pour les gens qui aiment la BD. Une chaire numérique qui est, de mon point de vue, porteuse d'avenir pour tout un tas de raisons, en particulier dans le cadre de la Grande Région. Donc Jean-François Cerisier, compagnon de la maison, la parole est à vous.
Merci. Merci Didier. Bon, je ne pensais pas parler de la chaire Mortimer, mais je vais être obligé d'en parler un tout petit peu. Avant de dire quand même que ce par quoi tu as presque terminé, c'est-à-dire indiquer ou rappeler que ces événements ou ces moments de discussion sont enregistrés, et non seulement ils sont enregistrés, mais ils sont diffusés et accessibles à distance, c'est une bonne façon de poser les questions dont on traite dans ce forum. C'est-à-dire de la captation ou de la production de données partagées dans certaines conditions et qui posent des questions juridiques, éthiques, économiques, scientifiques et autres éléments en hic. Donc merci de l'invitation qui a été faite à l'université de contribuer à l'organisation de cette manifestation. Alors évidemment, ce sont des remerciements qui sont souvent formulés à l'égard de Mendes France parce que notre collaboration est permanente. Un élément important est de rappeler ou de dire que c'est avec Mendes France que s'organise le débat autour de tous les programmes de recherche qui sont et seront financés dans le cadre du CPER, notamment, pas que bien sûr, mais notamment. Ce qui montre l'importance et la force de cette collaboration et l'importance que chacun y accorde, chacun accorde finalement à ce bien commun qu'est la production scientifique, ce qui est d'ailleurs pour partie l'objet précis de la matinée qui nous réunit, cette idée de bien commun. À titre plus personnel, donc j'ai été invité à organiser cette manifestation là, et en particulier cette journée, cette matinée. Ça n'a pas été, je vois Anne qui a évidemment aussi été dans la petite équipe avec Patrick Thierry d'organisation de cette matinée. Ça n'a pas été sans peine l'organisation de cette matinée ou de cette journée. Pas vraiment pour identifier le thème, tellement il est important et tellement il est évident de mettre en débat ces questions autour de la mise en données du monde, des biens communs, des questions relatives aux données et à leurs usages, mais de l'organiser concrètement. Mais donc on y est parvenu dans un calendrier de préparation qui est assez intéressant à exprimer, puisque nous avons organisé, pensé en tout cas, le forum en entier, pour ceux qui l'ont fait, cette journée en particulier, au début 2015. Donc on l'a fait dans un contexte sociopolitique et historique, presque historique court, très particulier, qui n'est pas très différent de ce qu'on vit aujourd'hui et qui colore nettement la discussion qu'on peut avoir, mais aussi la préparation qu'on a eue. Et dans un premier temps, on avait même pensé organiser cet après-midi, mais on n'a pas réussi à le faire, à vrai dire, mais ça vaut le coup de le dire, une autre table ronde qui aurait porté sur cette dialectique surveillance et liberté publique et individuelle, mais qui est, si ça n'est pas organisé cet après-midi sous la forme d'une table ronde, est une thématique qui traverse en fait complètement la semaine. Voilà, bon, au-delà de ces aspects un peu généraux, cette thématique du numérique et de ses usages est importante à l'université. Il y a 20 des 40 laboratoires, je dis ça à la dizaine près, hein, 20 des 40 laboratoires, la moitié des laboratoires de l'université de Poitiers qui ont une activité scientifique de recherche qui porte directement ou indirectement sur des questions numériques et qui sont des laboratoires qui soit se situent dans l'ensemble des sciences dites dures et de la technologie, soit dans les sciences humaines et sociales considérées en général. Et si on associe sciences dures, pardonnez-moi le raccourci, sciences dures, sciences humaines et sociales, et le travail de mise en partage, de mise en discussion qui est réalisé avec Mendès France, on a, je crois, un contexte qu'on pourrait finalement insérer ou positionner dans cette vision des humanités numériques. Et je pense que c'est bien ça dont il est question ici, c'est de penser au travers de cette idée d'humanité numérique, le numérique non seulement comme une technique et donc une technologie, un discours sur la technique, mais aussi comme une appropriation sociale qui peut être discutée au travers des sciences humaines et sociales. Voilà. Et dans les sciences humaines et sociales, il y en a une qui a beaucoup d'importance et qu'on a une petite tendance à oublier, et qui est l'histoire. Parce qu'on a toujours l'impression que ces questions du numérique sont des questions d'aujourd'hui qu'on ne traite qu'à partir de notre point de vue d'aujourd'hui, aujourd'hui au sens strict, alors que bien évidemment, eh bien, hier peut éclairer aujourd'hui, et que l'histoire de l'informatique n'est pas si courte que cela, même si elle n'est pas si longue que cela non plus. D'où l'importance, si je peux me permettre de faire la transition tout de suite, Didier. Oui. D'où l'importance de commencer cette journée par une mise en perspective historique. C'est un cas tout à fait, c'est plutôt une situation tout à fait habituelle dans nos domaines que d'oublier le passé. Moi, mon domaine le plus spécifique, hein, c'est le numérique dans l'éducation. Et dans l'éducation, y compris lorsqu'on lit des travaux de recherche très très pointus, performants, intéressants, on oublie souvent ce qui s'est passé hier. Je donne juste un exemple. On parle beaucoup des usages d'Internet à l'école et on ne se reporte jamais aux usages de l'audiovisuel et de la télévision. Et en fait, souvent, les questions qui sont posées sont les mêmes, transposées d'un temps à un autre et d'un contexte à un autre. Donc voilà toute l'importance de commencer cette réflexion par une mise en perspective historique. Et donc je vais tout de suite donner la parole à Pierre Mounier-Koun, que je présente rapidement. Il complétera. D'ailleurs, je fais une petite observation. Pierre, lorsque vous envoyez une biographie, vous l'envoyez en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas quelle est la signification qu'on doit trouver à ça.
C'était pour répondre au réel, à la demande.
Voilà. Voilà, donc, mais moi je vais vous le faire en français. Pierre Mounier-Koun est chargé de recherche au CNRS et à l'Université Paris-Sorbonne. Il a publié une cinquantaine d'articles sur l'histoire de l'informatique en France. Alors, c'est compliqué que ce soit en anglais, hein, parce que les termes n'ont pas forcément exactement la même signification en anglais et en français. Donc j'interprète, peut-être que je transforme, peut-être que je dégrade, je ne sais pas. En tout cas, je le fais à ma façon. Vous le direz si j'ai trop, si c'est trop loin de votre réalité. Il est auteur de deux ouvrages qui font référence dans ce domaine et dont j'imagine que les références bibliographiques sont mises à disposition du public. Donc l'histoire en France, l'informatique en France de la Seconde Guerre mondiale au plan calcul en 2010 et Mémoire vive 50 ans d'informatique chez BNP Paribas en 2013. Bon, il a organisé différentes conférences internationales sur cette approche de l'histoire de l'informatique, des brevets et des télécommunications. A dirigé de nombreux numéros spéciaux de revues et est cofondateur d'une société savante qui est la AHTI, la Société française d'histoire de l'informatique et des télécommunications, et puis est membre d'une autre société savante bien connue, Aconit, qui porte sur un sujet connexe mais important. Que je ne vais pas traduire parce que je suis sûr de faire un contresens, mais que vous pourrez préciser vous-même. Voilà. Merci. Je vous laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation brillante et parfaitement fidèle à l'original. Et En écoutant Didier Moreau brosser un tableau sombre de l'état de la culture scientifique et technique en France, je songeais qu'un biologiste darwinien interpréterait la vitalité du centre Pierre Mendès France comme un exemple parfait de la survie des meilleurs. J'assume, voilà. Mais je crois savoir un peu de quoi je parle en la matière. Je suis ici pour vous parler de numérique. Non, je ne vais pas vous parler de technique, je vais vous parler d'informatique. C'est-à-dire, je vais vous parler des fonctions et de ce qui se situe dans ce vaste espace entre les technologies numériques et la société, les pouvoirs, les représentations de travail. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'époque actuelle, je ne vous parlerai pas de ces petits objets que nous avons tous dans nos poches, qui nous sont présentés, qui se représentent eux-mêmes comme des instruments de liberté et de pouvoir indissociablement. Je ne me rendis le mien simplement que pour inviter ceux qui en ont un dans leur poche de bien vouloir l'éteindre pour que ça ne sonne pas pendant la conférence. Voilà. J'embraye sur cette mise en perspective que l'on m'a invité à faire des technologies numériques dans une perspective donc historique où je parlerai surtout de l'époque des origines de l'informatique. Je n'irai pas jusqu'à l'époque actuelle. Ça, le reste du forum le traitera beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Je voudrais simplement donner quelques modestes coups de projecteur sur un certain nombre de phénomènes qui montrent, qui illustrent comment les technologies de l'information ont été indissociablement liées à des besoins des différents pouvoirs, à des problèmes de gestion du travail, de management de la main-d'œuvre et plus généralement des populations, donc à la fois des questions de travail et de contrôle social, et comment tout cela était représenté. Donc c'est un sujet très complexe, je vais pas le traiter de façon globale. Je vais plutôt donner un certain nombre d'exemples en suivant un plan chronologique. Mon travail se fonde sur une très vaste littérature, puisqu'il existe actuellement, aujourd'hui, une bonne centaine d'excellents ouvrages sur l'histoire de l'informatique, la plupart en anglais, mais on en trouve d'excellents en allemand, d'excellents en italien, deux ou trois très bons en russe, mais malheureusement, je ne lis pas le russe, et puis quelques-uns maintenant dans d'autres langues européennes. On a créé il y a 8 ans un groupe d'historiens pour étudier l'histoire de l'informatique en Europe, qui a commencé à publier des numéros spéciaux de revue et qui prépare un ouvrage. Là, je donne juste un petit aperçu bibliographique que j'ai tâché de faire tenir en une page. Donc c'est la page de PowerPoint qui donne les limites de cette bibliographie. Notamment quelques très bons livres sur l'invention de l'Internet, sur l'expansion de l'informatique et des technologies de l'information dans l'économie, le très bon livre de Gérard Dréhan sur l'industrie informatique que je recommande vraiment, c'est un livre très clair, le classique de Patrice Fléchy, L'imaginaire d'Internet, un très bon livre d'un russe qui travaille au MIT, qui a écrit des choses remarquables sur l'histoire de l'informatique en URSS. Le livre, il y a même les ouvrages de mes confrères et consoeurs Valérie Schaffer et Benjamin Thierry essentiellement sur le Minitel et sur Cyclade. Le bon travail d'Alexandre Serre sur l'émergence d'ARPANET. Et puis j'ai tenu à mentionner un livre extraordinaire, le premier cercle d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est sans doute un des ouvrages les plus profonds et une des réflexions à travers un roman les plus prenantes sur les relations entre pouvoir et technologie et sur un rêve, ou plutôt un cauchemar, d'utilisation des technologies électroniques pour reconnaître la parole et procéder à des identifications de personnes sous le totalitarisme communiste en Union soviétique sous Staline. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main sur le premier cercle de Solzhenitsyn, achetez-le, lisez-le. Un film en a été tiré, qui est un des films les plus bouleversants qui soit. C'est un point de départ de réflexion sur les rapports entre technologie, pouvoir et société dans le domaine qui nous intéresse. Même si à l'époque, ça se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale, les technologies sont encore apparemment analogiques. En outre, je me suis appuyé sur les recherches que j'ai faites en écrivant mes articles et mes deux livres. Le premier livre sur l'émergence de l'informatique comme discipline et comme science dans la recherche et l'enseignement supérieur français. Il y a même un chapitre sur Poitiers. Et puis un deuxième livre qui est une histoire de l'informatique dans une des plus grandes banques mondiales, c'est-à-dire BNP Paribas, mais qui m'a donné l'occasion de vraiment de faire des recherches et de plonger dans ce monde très particulier de l'informatique bancaire qui est extrêmement important dans l'évolution des technologies. Alors, je commence par un rappel sur les origines de ces technologies qu'on considère la machine de Pascal ou la machine d'Olrith. Le développement de ces technologies a été lié dès l'origine à des besoins des administrations de l'État. Le père de Blaise Pascal était un receveur des impôts dans une administration royale en plein essor, sous Louis XIII et Richelieu. Et c'est pour aider son père à faire des calculs d'ordre fiscal, donc liés à l'expansion de l'État, à l'administration et à l'organisation d'une société nouvelle, que le jeune Blaise Pascal a conçu sa machine, qui est la première machine de l'histoire conçue pour le calcul et qui a été utilisée qui a été un peu utilisé, qui a surtout, ce qui fait sa signification historique, été connu. C'est-à-dire c'est une machine qui a mis dans la tête d'un certain nombre de gens dans l'Europe de l'âge classique qu'il était possible de confier une tâche intellectuelle à une machine et que grâce à cette machine, on pourrait améliorer l'efficacité de l'administration et de la science ou de la technique. Il y a une vraie continuité à travers deux siècles et demi jusqu'à l'invention des machines à cartes perforées pour les statistiques par Hermann Olrith aux États-Unis. Je vous rappelle que Hermann Olrith a conçu ces machines à cartes perforées pour accélérer le recensement américain. Le recensement américain était une obligation constitutionnelle des États-Unis et servait essentiellement deux fins politiques. Premièrement, savoir comment évoluait la population américaine de façon globale, mais aussi de façon locale, quelles étaient les croissances respectives des nouveaux États, et donc pour administrer l'économie, pour savoir où investir, ou lancer des lignes de chemin de fer, ou créer des équipements collectifs, ou investir. Et d'autre part, parce que de la population de chaque État dépendait le nombre d'élus au Congrès. Donc c'est une machine très humble, pas comme Olrith, c'est une machine qui ne savait pas faire grand-chose, c'est une machine qui était incapable de calculer, elle ne savait que compter, mais qui a joué un rôle décisif dans ces opérations de recensement qui étaient au cœur à la fois de la démocratie américaine et de l'expansion économique de la puissance des États-Unis. Et puis d'autres machines ont été développées à la même époque en mariant, selon le processus classique de l'innovation, en mariant les machines à calculer et les claviers de machines à écrire, pour donner les machines comptables qui se sont répandues au début du XXe siècle beaucoup plus rapidement que les grosses machines à cartes perforées et qui ont servi de modèle d'instrument d'action à une nouvelle catégorie socioprofessionnelle qui émergeait donc au début de la première moitié du XXe siècle, qui était les ingénieurs en organisation, hein, rappelez-vous Taylor, Fayol en France et d'autres, ce qu'on appelle le mouvement de la rationalisation, que ce soit le mouvement, les tendances progressistes ou progressives aux États-Unis ou les spécialistes de la rationalisation qui ont fondé en France la Cegos et d'autres sociétés spécialisées dans l'optimisation des ressources. C'est le début des sciences de gestion aux États-Unis et en Europe. Et assez vite, les gens qui portaient ces projets, les gens qui portaient ces représentations de l'utilisation des machines pour améliorer l'efficacité des organisations sociales, se sont mis à élaborer des doctrines. N'essayez pas de lire, d'abord c'est en néerlandais, mais j'aurais pu vous présenter 20 autres schémas de ce genre élaborés par des organisateurs dans les années 20 ou 30 et qui essayaient de mesurer les flux d'informations dans les organisations et de réorganiser les structures pour obtenir une meilleure efficacité en, par exemple, en centralisant les traitements de données dans de véritables ateliers de production et de traitement d'informations. Et ça donne assez vite, dès les années 20, des transformations partiellement centralisées qui constituent des ateliers de machines comptables et des pools de machines. Et puis dans les années 30, avec les progrès techniques qui permettent aux grosses machines à cartes perforées de dépasser les fonctions statistiques pour attaquer le marché de la comptabilité, parce qu'on a réussi à faire les quatre opérations arithmétiques aux machines à cartes perforées, on voit se développer de vastes ateliers de saisie sur carte, comme ici, de véritables bases de données de cartes perforées, lesquelles cartes perforées font des allées-venues fréquentes avec l'atelier de traitement constitué de grosses machines qui pèsent 800 kilos chacune et sont par leur prix et leurs exigences techniques le haut de gamme de toutes les machines à cartes perforées disponibles à l'époque. Et donc on constitue dès la fin des années 30, et là notamment je présente le cas des banques françaises qui étaient, après avoir été en retard, ont été assez en avance sur toutes les autres dans ce domaine, de véritables ateliers gigantesques de traitement de données. Ici, un atelier de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie à Dinan, en Bretagne, qui fonctionnait pendant la guerre. C'est pendant la guerre, et on le voit parce qu'il y a des rideaux aux fenêtres et que c'est éclairé en permanence. L'atelier travaillait jour et nuit, et le soir, il ne fallait pas que c'était le blackout, et il ne fallait pas que les avions anglais puissent se repérer sur et venir bombarder l'atelier de traitement de la BNCI. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se passe des choses beaucoup plus importantes que le traitement des titres boursiers à la BNCI. C'est le développement des premiers systèmes de traitement de l'information et de calcul pour la cryptanalyse avec la machine Colossus à Bletchley Park dans les services secrets britanniques et le développement de grosses machines traiter des questions plus techniques, soit de balistique, soit de calcul de structure aérodynamique, aux États-Unis avec ENIAC et en Allemagne avec les machines de Zuse. Donc, pendant la guerre, toute une nouvelle réflexion fait son chemin avec l'expérience de ces machines, avec l'expérience de l'utilisation poussée des mathématiques pour non seulement les calculs techniques, mais pour la prévision économique, pour la prévision logistique, c'est le début de la recherche opérationnelle, et pour la prévision en temps réel du comportement d'un ennemi, qu'il soit humain ou physique. Et c'est ce qui, je résume très rapidement, c'est ce qui conduit à la formation de cercles cybernétiques, le mot cybernétique lui-même étant lancé ou relancé par cet immense savant universel issu du MIT, qui était Norbert Wiener, et qui publie en 1948, simultanément à Paris et aux États-Unis, simultanément en français et en anglais, son ouvrage « Cybernétique, contrôle et communication dans l'animal et dans la machine », auquel il ajoutera bientôt un troisième volet qui est le contrôle et la communication dans la société. Donc, ce mouvement cybernétique a une très grande influence. La lecture de Norbert Wiener frappe et stimule beaucoup d'esprits à travers le monde, notamment le monde savant, dès la fin des années 40, et suscite beaucoup de réflexions. Nous sommes en 1948, donc avant la mise en service des tout premiers ordinateurs. Les premiers ordinateurs opérationnels n'entrent en fonctionnement qu'en 1949-1950. En Angleterre, aux États-Unis et puis en URSS. Et pourtant, les réflexions vont bon train. Donc, je cite quelques exemples. Donc, ce qu'on vient de voir avec Norbert Wiener et ses réflexions sur la cybernétique. Au même moment, ça n'est pas lié au mouvement cybernétique, mais il y a l'apparition de 1984 par George Orwell qui exprime la crainte obsessionnelle et très justifiée de beaucoup d'intellectuels de cette époque face à la montée des totalitarismes et au risque de plus en plus grand de voir les totalitarismes utiliser toutes les technologies que la science et l'ingénierie mettent à leur disposition. Hein, c'est l'idée qui se fait jour que tout ce qui est possible se fera d'une façon ou d'une autre. Et George Orwell, d'une certaine façon, répond d'avance, son travail correspond à ce que présentera un peu plus tard Solzhenitsyn, à l'époque, quand, en 1948, Solzhenitsyn est en camp de concentration. À la même époque, John von Neumann élabore et présente sa théorie des jeux, qui, entre bien d'autres applications possibles, revient à transférer à des algorithmes les décisions stratégiques. Von Neumann est consultant auprès de l'US Air Force, auprès de la RAND Corporation et auprès d'IBM. En France, un religieux dominicain, le révérend Père Dubarle, publie dans Le Monde, donc je crois que c'est en avril 1948, un article intitulé « Vers la machine à gouverner ». Point d'interrogation. Encore une fois, il publie cet article au moins un an avant la mise en service des premiers ordinateurs. Il décrit, je cite, « les perspectives fascinantes de la conduite rationnelle des processus humains, rationnels, de ceux en particulier qui intéressent les collectivités et semblent présenter quelques régularités statistiques. » Et il dit que l'on peut désormais rêver à un temps où une machine à gouverner viendra suppléer pour le bien ou pour le mal, qui sait, l'insuffisance aujourd'hui patente des têtes et des appareils coutumiers de la politique. Quant à... Alors, c'est extraordinairement plein de sous-entendus. Et c'est plein de sous-entendus qu'on retrouve dans les publicités des grands constructeurs de machines à traiter l'information à l'époque, j'en ai pas présenté ici, mais qui, la plupart du temps, présentent un cadre dynamique et un patron souriant qui rentre chez eux le soir... leur travail du jour bien accompli grâce à la nouvelle machine à cartes perforées ou grâce au nouvel ordinateur. Et la légende explique généralement qu'enfin, on peut prendre des décisions rationnelles, ce qui sous-entend qu'ils en étaient absolument incapables avant sans machine. Celui qui peut-être objecte le plus à ces utopies ou à ces pratiques émergentes, c'est Norbert Wiener lui-même, qui estime que transférer sa responsabilité à une machine, qu'elle soit ou non capable d'apprendre, c'est lancer sa responsabilité au vent pour la voir revenir portée par la tempête. Cette phrase de Wiener est lourde de signification et de prévision. Elle a un répondant dans un fidèle lecteur de Wiener, qui est un Français, François Rermont, qui construit à l'époque le premier ordinateur français, qui a créé une start-up pour faire des calculateurs électroniques, et qui explique dans un livre ultérieur où il analyse le livre de Bernanos, La France contre les robots, il le met en rapport avec les livres de Wiener, il explique ce qui est vraiment grave. C'est pas que les machines électroniques vont de plus en plus se comporter comme des humains. C'est pas ça qu'il faut craindre. C'est que de plus en plus d'humains sont en train de se comporter comme des machines. Donc il retourne le problème, mais c'est pas seulement une habileté rhétorique pour défendre sa boutique. C'est un véritable acte de foi dans la culture générale et dans la culture scientifique d'ailleurs. Je saute quelques années. En 1949, l'expérimentation par l'URSS de sa première bombe atomique déclenche la guerre froide. Et les pays occidentaux d'un côté, l'URSS de l'autre, se lancent dans la réalisation de non seulement d'armements, mais de systèmes de contrôle aérien militaire pour organiser la défense. Je donne un exemple qui est le système français. Dans cet exposé, je vais essayer de donner des exemples tirés d'autres recherches que celles qu'on connaît bien maintenant sur les systèmes américains. Je vais essayer de sortir d'une historiographie qui est excellente, mais qui est jusqu'ici trop américano-centrée, pour nous faire un petit peu voyager dans des pays qui sont peut-être moins pionniers, encore que, mais qui ont réalisé des choses intéressantes et qui donnent parfois une autre vision des choses. Donc on est en France au milieu des années 50 et l'armée de l'air dispose depuis 1938 et surtout depuis 1945 de stations radar qui ont été un peu utilisées contre les Allemands en 1939-1940, puis qui ont été détruites pour que ce ne soit pas réutilisé par l'occupant. Et tout cet équipement a été refait à partir de 1944 avec du matériel américain. Et on se retrouve donc dans les années 50 avec du matériel qui date de 1945 et qui est toujours organisé de façon globale, comme l'étaient les Operations Room des états-majors anglais de la bataille d'Angleterre, avec des jeunes femmes qui, devant une vaste carte, bougent avec des râteaux de croupiers de casino, des plots qui représentent les assaillants, nos escadrilles d'interception, nos bases, etc., qui communiquent par téléphone pour nous donner des ordres aux bases de la chasse et des intercepteurs. Donc ça n'est pas suffisant, ça n'est plus suffisant, ce système technique est dépassé face à des bombardiers soviétiques à réaction. On est à peu près sûr, et les manœuvres répétées à l'époque le prouvent, que bien avant que l'alerte ait été donnée et que les intercepteurs aient décollé, les bombes auront atteint leurs objectifs. Donc des ingénieurs se mettent à cogiter au sein de l'armée de l'air et dans les entreprises qui collaborent avec les armées pour définir un système automatisé de veille aérienne où les opérateurs et les opératrices seraient remplacés autant que possible par des circuits électroniques et par des algorithmes. Et ces schémas ressemblent classiquement à cela, qui est un schéma que j'ai repris d'une archive de l'armée de l'air française de la fin des années 50. C'est un schéma très, très résumé, très succinct de réseau, à la base duquel se trouveraient des centres de détection, avec au-dessus des centres régionaux, qui rapportent d'une part au commandement de la défense aérienne et d'autre part au commandement des forces aériennes stratégiques, parce qu'il faut d'une part se défendre et d'autre part éventuellement riposter, selon la doctrine de la dissuasion. Et tout cela remonte directement au niveau gouvernemental le plus haut, surtout quand il s'agit de mettre en œuvre la force aérienne de dissuasion. Et les travaux commencent dès 1957 avec le développement de nouveaux radars, de nouveaux ordinateurs par cet IBM qui est choisi, IBM France, qui développe des ordinateurs particuliers et des systèmes de télécommunication. Donc une très vaste opération industrielle où des entreprises nombreuses apportent leurs compétences pour constituer ce réseau qui est le plus grand programme que l'armée de l'air française ait jamais suivi et jamais mis en œuvre. Et le Strida existe toujours. Les entreprises qui l'ont conçu continuent à le maintenir et à le moderniser. Donc c'est une affaire de longue haleine qui mène dès 1962 à l'installation de premières grandes stations dans des souterrains, dans des bunkers. Le premier est à Mont-de-Marsan, le deuxième est installé à Drachenbronn en Alsace. Et c'est là qu'on voit apparaître cette figure tout à fait nouvelle d'un aviateur qui passe sa vie dans des souterrains à regarder l'ennemi apparaître sur des écrans et appuyer sur des boutons pour contrôler et commander. C'est le début des systèmes de contrôle et de commande. Les diverses forces, donc commander des interceptions, par des chasseurs, par des avions, par des missiles, par la DCA, et d'une certaine manière, de façon très schématique, avec le développement de ces systèmes, dès les années 60, ce qui était autrefois des armes autonomes, les batteries de DCA, les missiles, les chasseurs, les héros de la bataille d'Angleterre, les héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient les pilotes de chasse, ces espèces de chevaliers du ciel, tous ces objets plus ou moins volants deviennent simplement des terminaux, des périphériques de l'ordinateur central qui prend les décisions et contrôle le tout, avec éventuellement un contrôle à l'Élysée et au ministère de la Défense et au PC de Taverny ou de Montverdun. Alors là, j'ai donné l'exemple français. Bien entendu, aux États-Unis, un système beaucoup plus vaste a été mis en œuvre et commence déjà à être opérationnel à l'époque où Strida est développé. C'est un système destiné à couvrir tout l'ensemble du territoire américain contre des attaques soviétiques. Et de la même façon, il s'agit du système SAGE, Semi-Automatic Ground Environment. Semi-automatique, ça veut dire qu'il y a encore des opérateurs dans la boucle, mais on espère à l'époque que ça ne durera pas. Et là, vous voyez bien un schéma qui relie l'ordinateur central aux stations radar, aux intercepteurs, aux missiles. Et bon, c'est là aussi très, très simplifié. Ce qui nous intéresse, c'est l'ampleur de ce programme. Là aussi, le SAGE est le plus grand programme que l'US Air Force ait jamais mené. C'est un programme de plusieurs milliards de dollars. C'est beaucoup plus cher que le développement et le déploiement des bombardiers B-52 stratégiques. L'US Air Force fait travailler un certain nombre de partenaires. Ce sont le MIT qui, pour l'occasion, conçoit l'ordinateur, le Whirlwind, qui, deux ou trois ans après la sortie des premiers ordinateurs, constitue déjà une révolution dans la technologie des ordinateurs, parce que pour la première fois apparaissent les technologies et les concepts du temps réel, puisque dans un réseau de défense aérienne, il s'agit de répondre en temps réel à une attaque. Il ne faut pas faire comme dans les machines bancaires à carte perforée où on apporte les données un soir et on vient chercher les résultats le lendemain. Ce serait un peu dangereux. Donc le MIT joue un rôle central, donc une université joue un rôle central dans la conception générale de systèmes. IBM est l'un des grands partenaires pour la construction des machines, ainsi que les fournisseurs d'autres matériels, radars, télécoms, etc. Une des choses intéressantes, c'est que IBM a refusé de prendre en charge la programmation de ce système. On sait que ce sera une énorme opération. Et IBM a objecté, a donné comme argument qu'il faudrait au moins de l'ordre de 2000 programmeurs pour développer les millions d'instructions nécessaires au système SAGE entre 1952 et 1958. Et qu'est-ce qu'on pourra bien faire de 2000 programmeurs après que le système Sage sera mis en œuvre ? L'avenir allait donner tort à IBM, mais du coup, la programmation, le développement des logiciels est confié à la RAND Corporation, qui est une sorte de sous-traitant intellectuel de l'armée de l'air américaine, créé juste au démarrage de la guerre froide, pour fournir l'US Air Force en rapport d'expertise, en analyse mathématique. Ce sont des gens qui mettent en œuvre les théories de la décision de von Neumann au service de la stratégie et des choix tactiques et des choix opérationnels. Et donc, la RAND Corporation crée à Santa Monica, à Los Angeles, une filiale qui s'appelle System Development Corporation, SDC, en 1956, pour développer les logiciels du Sage. Et il se trouve que, au bout de quelques mois, System Development Corporation gère des équipes de programmeurs qui constituent à peu près la moitié des effectifs totaux de programmeurs des États-Unis. Donc, dès 1957-58, la RAND et SDC représentent vraiment la moitié de l'effectif des programmeurs du pays qui est de loin la plus grande puissance informatique et économique au monde. SDC possède à Santa Monica un centre de calcul qui est à l'époque le plus puissant du monde, plus puissant que les centres de calcul du MIT ou même de la NSA qui viennent de se constituer à l'époque. À partir de la fin des années 50, le système Sage entre en fonctionnement opérationnel, et une partie des programmeurs qui sont très bien formés, qui sont les premiers programmeurs système de l'histoire, SM, et vont travailler dans d'autres organisations où ils apportent non seulement leurs compétences techniques de programmeurs, mais aussi une idée nouvelle, mais aussi le schéma mental de ce qu'on va appeler bientôt le Management Information System. C'est-à-dire qu'ils rêvent de transposer ce qu'ils ont contribué à développer pour l'armée de l'air à toutes les grandes organisations. Et c'est l'une des premières qui adopte cette idée, c'est American Airlines, la compagnie d'aviation, qui passe contrat avec IBM et avec d'autres industriels pour développer le système Sabre, le premier système de réservation de places d'avion par ordinateur, ce qui est une transposition, dans une certaine mesure, du système Sage dans une activité civile. Et tout au long des années 60, ce rêve managérial du Management Information System va faire l'objet de tentatives de mise en œuvre dans des entreprises et des administrations, et va avoir une influence considérable sur l'évolution de la technologie. On a là un très bel exemple d'évolution de la technologie qui est due à une vision de l'organisation, à une conception de l'organisation sociale, et non pas simplement à la dynamique propre interne de la technique et de l'ingénierie. Je donne un exemple parmi beaucoup d'autres, il n'est pas très lisible parce que ça vient d'un document d'archives tapé à la machine. C'est pas aux États-Unis, c'est en France. C'est la vision des produits futurs de la Compagnie internationale pour l'informatique, la C2I, créée en France en 1966 comme champion national du plan calcul. Et les ingénieurs de la C2I dessinent ce à quoi devra ressembler leurs ordinateurs, l'emploi de leurs ordinateurs dans la décennie suivante, dans les années 70. Donc, ce qu'ils voient, c'est des ordinateurs en réseau, des ordinateurs plus ou moins gros, en réseau qui ne sont pas seulement des réseaux en étoiles, avec un très grand nombre de terminaux chez les utilisateurs pour entrer les données et recevoir les décisions, les résultats du traitement par ordinateur. Et c'est en fonction, là on a une bonne illustration, pas matériellement une bonne illustration, mais une bonne illustration exemplaire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est en fonction de cette vision que les gens du plan calcul vont concevoir leurs nouveaux ordinateurs. Et notamment, il y aura un mini-ordinateur, le Mitra 15, qui sera la solution toute trouvée pour constituer les nœuds de réseau du réseau Cyclade, qui sera développé par des gens qui ont travaillé entre-temps, des Français qui ont travaillé entre-temps aux États-Unis sur le projet ARPANET. Faisons un petit crochet par l'Union soviétique, 5000 km plus à l'est. Les Soviétiques ont été les premiers. J'ai peut-être plus beaucoup de temps. Les Soviétiques ont développé les premiers ordinateurs en Europe continentale, dans des conditions qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien, même s'ils ont écrit pas mal d'histoires, mais parfois c'est un peu une histoire comme nous on l'écrivait il y a 40 ans. Et ce qui nous intéresse plus ici, c'est que c'est les relations entre les gens qui ont fait cet ordinateur et la cybernétique. La cybernétique a été violemment attaquée par l'URSS et par tout le mouvement communiste international autour de 1950. J'avais trouvé un article absolument stupéfiant dans une revue communiste française qui s'appelait La Pensée, un article publié en 1952 par un mathématicien français qui expliquait que la cybernétique était une arme de guerre contre le socialisme et que Norbert Wiener, Claude Shannon, avec sa théorie de la formation, tout ça, ça relevait de l'escroquerie intellectuelle et que ça n'était que des appâts, des fumées de propagande pour essayer de déstabiliser les marxistes-léninistes conscients et organisés. Et là, je ne caricature pas l'article, c'est vraiment ça. Il se trouve que j'ai interviewé ce monsieur qui a maintenant plus de 100 ans, André Lantin, il y a quelques années. Il m'a dit, mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai honte d'avoir écrit ça quand j'étais communiste. Enfin bon, ce qui nous importe ici, c'est que la cybernétique est bannie. Le livre de Wiener de 1948 est traduit et publié en Union soviétique et immédiatement incinéré ou mis sous le boisseau. Quelques soviétiques deviennent des cybernéticiens ardents et se passent sous le manteau les traductions du livre de Wiener qui deviennent des sortes de samizdat. Et il y a donc un petit milieu bouillonnant de passionnés de cybernétique qui n'ont pas le droit de s'exprimer autrement qu'en se promenant dans les parcs sous la neige pour être sûr de ne pas être écouté, jusqu'à la mort de Staline et à l'éviction de son ministre Jdanov, donc jusqu'à la disparition du jdanovisme, qui était la version culturelle et scientifique du communisme stalinien. Et par réaction, à la fin des années 50, on voit en Union soviétique un véritable bouillonnement de pensées cybernétiques, de livres sur la cybernétique, chez des gens qui sont qu'on peut considérer comme des fondateurs de l'algorithmique et de l'informatique théorique d'aujourd'hui. Markov, c'est un peu le Turing soviétique. Cette informatique soviétique et ces cybernéticiens sont pour la plupart des gens qui travaillent dans le cadre militaire. Les plus grands passionnés de cybernétique sont des colonels qui dirigent des centres de calcul, d'énormes centres de calcul, souvent dans des villes plus ou moins secrètes, dans des villes totalement militarisées. Et deux ou trois d'entre eux commencent à cogiter en 1959 sur la possibilité de relier les divers ordinateurs de ces grands centres militaires et plus tard de les relier aux ordinateurs qui équiperont les grandes usines, les grandes entreprises nationales soviétiques pour faire un réseau civil, puisqu'ils sont déjà en train de constituer un réseau de défense aérienne semblable au siège du Ostrida, mais ils rêvent de créer un réseau qui permettrait de rationaliser l'économie, d'optimiser l'emploi et l'allocation des ressources, d'une façon qui, dans leur esprit, compléterait admirablement le travail du Gosplan. Et en effet, à l'époque, dans leur esprit, étant donné ce qu'est la technologie informatique et les gros ordinateurs de l'époque, la planification centralisée pourrait trouver un outil idéal dans un réseau d'ordinateurs qui permettrait de traiter, d'examiner en temps réel les données économiques de tout le pays. Et en fait, ils sont parmi les premiers à rêver de la constitution de ce que déjà les ingénieurs en organisation et les rationalisateurs des années 30 appelaient un tableau de bord de l'économie. Alors, dans les années 30, on parlait du tableau de bord des entreprises, des grandes banques, et on commençait à parler de tableau de bord de l'économie nationale. On a vu ça en France déjà sous le Front populaire. Là, les cybernéticiens soviétiques voient dans les ordinateurs la possibilité concrète de réaliser un véritable tableau de bord permettant de gérer en temps réel l'économie. Et donc, ils remettent leur rapport à Khrouchtchev et à d'autres dirigeants politiques de l'Union soviétique en disant « Nous avons là un moyen de réaliser ce dont vous rêvez, c'est-à-dire de dépasser d'ici deux ou trois plans quinquennaux l'efficacité de l'économie américaine. » Et il se trouve que ce projet, qui est techniquement réalisable sur une quinzaine d'années, est violemment contesté dans les sphères dirigeantes soviétiques par deux courants contradictoires. D'une part, les apparatchiks et les planificateurs estiment que confier des décisions économiques aux ordinateurs est contraire à la démocratie, parce que ce sont les soviets et les comités d'entreprise qui prennent les décisions. Et de façon plus réelle, ils n'ont aucune envie, ces apparatchiks, d'être remplacés par des technocrates, des ingénieurs et des ordinateurs. Et de l'autre côté, il y a à l'époque de Khrouchtchev une tendance d'un certain nombre d'économistes soviétiques à libéraliser l'économie et donc à remettre des mécanismes du marché. Or, ces ordinateurs, dans le rêve des cybernéticiens soviétiques, aurait servi à simuler le marché, à simuler l'allocation des ressources et la fixation des prix. Or, toute la tendance la plus moderne, la plus modernisatrice des économistes soviétiques préférait carrément passer à une certaine forme d'économie de marché qu'ils estiment beaucoup plus efficace que des ordinateurs, parce que la question reste toujours qui va concevoir les algorithmes. Donc ce projet du colonel Kitov et du professeur Glushkov passe à la trappe. Il va être réalisé dans une certaine mesure, une dizaine d'années plus tard, dans le Chili de Allende. Le Chili de Salvador Allende, au début des années 70, voit converger deux utopies. D'une part, l'utopie qui est celle du président Salvador Allende d'un socialisme démocratique avec des nationalisations, avec une économie administrée, mais de façon démocratique et non de façon autoritaire. Il est bien conscient des impasses de la planification soviétique. Et d'autre part, un rêve cybernétique porté par un Anglais, Stafford Beer, qui est l'un des représentants de la tendance cybernétique britannique et qui émigre au Chili et qui apporte un projet pratiquement tout fait d'économie non plus administrée par un Gosplan, mais d'économie rationalisée par un réseau d'ordinateurs qui serait compatible avec une économie à la fois socialiste et démocratique. Alors, ce projet est mis en œuvre dans des conditions assez difficiles parce qu'il n'y a que 50 ordinateurs au Chili et la plupart ont plus de 10 ans d'âge, donc ils ne sont pas très adaptés à une utilisation en réseau. Mais on espère qu'en modernisant peu à peu les équipements et avec une bonne propagande, on arrivera à associer les travailleurs, les cadres et les ingénieurs en informatique pour former un système qui marche. Donc, on a tout une campagne de propagande, Nuestro amigo el computador, et euh, une, euh, des publications destinées à une audience internationale pour montrer comment au Chili on est capable de mettre la science au service du peuple. Donc vous avez là un exemple très intéressant de réseau informatique dont le projet reste quand même très centralisé, qui rejoint des idées qu'on verra un peu plus tard dans la contre-culture américaine chez les promoteurs de la micro-informatique, qui est la réappropriation de la science et de la technologie par le peuple. Le projet de Allende, Stafford Beer et Fries aboutit à l'automne 1973 à la construction d'un premier réseau avec une salle d'opération, la Ops Room, qui est un peu conçue comme les salles d'opération souterraines qu'on a vues pour les grands systèmes militaires de défense aérienne, mais là, dont le style rappelle tout autant le vaisseau spatial de 2001 l'Odyssée de l'espace ou le vaisseau Enterprise de Star Trek, les deux films étant antérieurs de quelques années à cette réalisation. Ça a été très bien étudié par une jeune universitaire américaine à qui j'ai eu l'honneur de remettre le prix du Computer History Museum de Mountain View il y a 3 ans, qui s'appelle Cybernetic Revolutionaries. Mais donc, il se trouve que 3 semaines après la mise en œuvre du système, Pinochet et l'armée chilienne fait son coup d'État. Tout ça est détruit et des économistes pseudo-libéraux viennent réinstaller un pseudo-marché libre à la place de cette économie cybernétique. Donc, fin du rêve, fin de l'utopie. En revanche, à la même époque, de façon plus limitée, d'autres organisations dans le monde réalisent des réseaux opérationnels qui marchent et qui durent. Il y en a beaucoup. Dès les années 60, des organisations civiles, des grandes sociétés d'assurance, je prends simplement l'exemple en France, mais évidemment c'est la même chose dans les grands pays développés, des grands groupes d'assurance, des grandes banques, la SNCF, constituent des réseaux de données numériques. Et un des exemples les plus spectaculaires, c'est le système mis en œuvre par EDF pour son dispatching, c'est-à-dire pour l'optimisation des ressources. C'est un travail très compliqué parce qu'il s'agit de réguler en permanence la production d'électricité par les barrages, par les centrales nucléaires ou par les centrales thermiques avec la consommation, sachant que la consommation a des pics et des creux, que la masse de l'énergie électrique consommée ne se trouve pas dans les mêmes régions que la production électrique, notamment celle des barrages, et que tout cela évolue, et que surtout il y a une contrainte, c'est d'empêcher qu'il y ait un accident sur une ligne qui se répercute à l'ensemble du réseau et qui plonge toute la France dans une panne électrique généralisée, comme c'est arrivé en France et dans d'autres pays. Donc EDF met en œuvre au milieu des années 60 un très grand programme pour créer un système informatisé de dispatching qui couvrirait toute la France et qui permettrait de gérer le système, y compris les exportations d'électricité vers l'étranger. Et ça aboutit en 1971. Donc à peu près en même temps que les premiers grands réseaux type ARPANET américain ou autre, ça aboutit à la constitution d'un réseau qui fonctionne d'emblée, d'un réseau très sûr, temps réel, avec des redondances pour assurer la sécurité, avec de vastes salles d'opération, de contrôle général. Là, c'est la salle d'opération de Paris qui contrôle tout le réseau français. Ça, je crois que c'est le centre de dispatching qui était installé à Nantes au même moment. Donc, on a ce tableau de contrôle de toutes les centrales de la région Ouest, Brennilis et autres. Ces systèmes se développent et se répandent pendant toutes les années 70. Avec une multiplication des expériences et des réalisations de réseaux opérationnels. Désormais, chaque constructeur informatique a son système et ses normes de réseau. Et les grandes banques, par exemple, se mettent à concevoir de nouveaux réseaux qui, de plus en plus, mettent en œuvre des technologies comme Ethernet, qui a été développé dans les années 70 et d'autres. Et puis on voit simultanément la Direction générale des télécommunications, avec le CNET, mettre en œuvre des réseaux de données numériques et étudier des projets de réseaux numériques à intégration de services qui aboutissent à la mise en service en 1978 de Transpac. Donc vous voyez ici une affiche qui, me semble-t-il, exprime parfaitement le concept d'autoroute de l'information que nous retrouverons 12 ans plus tard dans la bouche d'Al Gore aux États-Unis. Je crois qu'on peut s'arrêter là et je vous laisse la parole.
Merci Pierre. Micro.
Bonjour, merci d'abord pour cette présentation qui, effectivement, vous l'avez dit au début, que je trouve vraiment passionnante parce qu'on connaît bien l'historiographie américaine et de montrer à la fois la diversité du développement de l'informatique post-Seconde Guerre mondiale et puis aussi finalement l'influence patente aussi d'enjeux politiques, économiques, idéologiques. C'est hyper intéressant ce que vous avez montré sur la cybernétique, l'appropriation de la Russie. Ça me fait penser à Lénine et son discours sur l'électricité. C'est assez drôle comment ces technologies, c'est le salut pour les libéraux, c'est le salut aussi pour les communistes. Il y a une énorme violence qui est intéressante. Donc voilà, vraiment, c'est passionnant, même sur le Chili. Moi, j'ai appris plein de choses. Je connais bien l'historiographie américaine, précisément, mais là, il y a plein de trucs qui montrent à quel point cette histoire, elle est plus complexe qu'on la présente souvent, je sais pas, à travers des leaders et compagnie. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est juste techniquement... Avant la commutation par paquet, avant Ethernet, en fait, c'est quoi ? C'est le temps partagé, fondamentalement, les réseaux que vous avez montrés en Russie ou au Chili ? C'est le time sharing ?
Les premiers systèmes de temps partagé, c'est 1961, donc après ce projet soviétique que j'ai montré, ils pensaient simplement à associer des ordinateurs à des réseaux de télécommunications. Au Chili, il y a effectivement un système de temps partagé qui est envisagé, mais ce qu'il faut bien voir, c'est là la dynamique interne de l'informatique. On commence par avoir à la fin des années 50 des ordinateurs qui mono-utilisateurs, mono-programmes. On essaye de les rentabiliser plus au début des années 60 en développant les systèmes de temps partagé qui permettent de mieux utiliser le processeur. Et puis, une fois qu'on a mis au point ces systèmes de temps partagé, on essaye d'aller plus loin en reliant différents ordinateurs pour partager notamment les bases de données. C'est le premier but d'ARPANET. Et une fois qu'on a relié plusieurs ordinateurs en constituant un réseau, alors le défi d'ARPANET, c'était de relier des ordinateurs incompatibles, hétérogènes, on fait germer l'idée de relier non plus des ordinateurs, mais les réseaux, en un inter-réseau. Et donc, c'est ce qui donne Internet. En fait, on peut assez facilement découper l'histoire d'Internet en période d'une dizaine d'années. Et tout ça, évidemment, pose à chaque étape des problèmes cruciaux. Hein, comme dans toute l'histoire d'innovation, il y a des problèmes cruciaux qu'on identifie à force de faire des expérimentations et auxquels quelques personnes imaginatives apportent des solutions, comme la commutation de paquets, les datagrammes, etc. Mais vous le savez, c'est une évolution très, très progressive. Et le CNET français a commencé par faire des systèmes à la fois analogiques et numériques, puis un système numérique, puis a introduit la notion de commutation de paquets et a refusé les datagrammes. Voilà. Enfin, je ne vais pas faire un exposé technique ici.
C'est une question très bête. Moi aussi, je vous remercie. C'est un plaisir de vous écouter et de montrer que finalement, l'histoire, c'est aussi de la géographie. Et ça c'est vraiment important. Et puis je comprends aussi la précaution scientifique, méthodologique de l'histoire qui s'arrête il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et donc ma question encore une fois, très bête, c'est que dit l'historien ou que dit la vision de l'historien et la vision historique de la situation d'aujourd'hui ?
Voilà.
Mais en deux mots.
Si on était dans un studio de radio, je demanderais au journaliste s'il est en train de s'il veut que je lui serve un petit blanc.
Ça.
Ce qui à l'antenne est mal vu. Mais ma première réponse, ce serait que l'historien a déjà assez de mal à comprendre le passé sans en plus essayer de prévoir l'avenir.
Je ne parle pas d'avenir, moi, je parle de présent.
Oui, la situation présente. Je suis vraiment incapable de répondre à cette question parce qu'elle est trop vaste. Je n'ai pas envie de vous reprendre une heure de votre temps.
Non, mais alors je peux la préciser. Vous avez fait des choix quand même dans la présentation des choix que vous avez sans doute fait largement en fonction du présent, justement, pour éclairer le présent. Voilà. Donc c'est comprendre vos choix.
Je suis comme beaucoup de gens très préoccupé par les enjeux de pouvoir. Il suffit de prononcer des noms, des mots comme Google, NSA, les différentes formes de piraterie sur Internet et de vandalisme. L'informatique et Internet aujourd'hui sont des outils de pouvoir et de liberté. Un pouvoir est une liberté un pouvoir, c'est indissociable. Je crois pas à l'existence de contre-pouvoir, il y a des pouvoirs en concurrence. Et on a avec ces technologies un énorme multiplicateur de puissance. J'ajouterais que les utopistes et les technophiles nous ont toujours dit que l'informatique était un énorme multiplicateur d'intelligence, mais en bon raisonnement symétrique à la Bruno Latour, on est obligé d'admettre que dans ce cas, l'informatique est aussi un énorme multiplicateur de bêtises.
Bonjour. En effet, merci pour cette vision sur le long terme. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il s'est passé des choses avant notre propre éveil de conscience. Donc ça, c'était vraiment important. Je me demandais, en effet, aujourd'hui, pour parler du présent, on vit avec la question des datas qui est omniprésente et à laquelle on confère, ou en tout cas les acteurs confèrent une objectivité absolument sidérante. On a tendance à penser que les datas sont neutres ou objectives, ou en tout cas permettent de saisir la réalité des faits. On oublie qu'elles sont des construits sociaux avant tout, et qu'elles portent avec elles aussi des visions et des prises, certaines visions sur le monde. Et dans ce champ un peu du data, big data, la seule critique un peu qui émerge, en tout cas moi que j'ai aperçue, c'est celle d'Antoinette Rouvroy sur la gouvernementalité algorithmique. Mais qui en même temps qui est une critique un peu radicale et qui ne nous dit pas quand même comment faire pour interagir avec les data qui de toute façon sont là et nous orientent dans notre vie au quotidien. Et du coup, je me demandais, alors on sort de l'histoire et c'était peut-être basculé dans la philosophie, mais je me demandais ce que vous pensiez des approches de Simondon, donc de ce philosophe, parce que j'ai l'impression que depuis Simondon, on n'a pas d'autres penseurs de la technique au sens d'une technique qui est aussi essentialisée. On en fait un objet qui a une vie, une trajectoire, une trajectoire d'usage et donc des caractéristiques propres et qui permet du coup aussi de peut-être de mettre à distance et de savoir comment on interagit avec. Alors, je ne sais pas comment vous... Est-ce que c'est une pensée qui est dans votre...
C'est bien parce que vous êtes en train de dessiner le programme de recherche et de lecture que je m'étais justement fixé pour cet hiver. C'est-à-dire regarder de façon comparative ce qu'ont écrit sur ce sujet à la fois Simondon, François Rousseau, qu'on a oublié mais qui était un grand historien des techniques, qui a publié en 1962 un très intéressant article sur ce qu'est le calcul et ce que sont les algorithmes. Dans la revue des informaticiens de l'époque qui s'appelait Chiffres, et Bertrand Gilles, donc le penseur du modèle des systèmes techniques. Donc rendez-vous dans deux mois quand j'aurai fini mon programme de lecture. Ce que je peux dire, c'est juste une remarque à propos du début de votre intervention. J'ai été très frappé de voir que depuis la création de la CNIL, donc dans les années 70, et depuis la réflexion exprimée dans le rapport Noramin qui concernait entre autres les problèmes des données, les problèmes politiques posés en termes de sécurité et de liberté et de confidentialité par la gestion massive des données, c'est que la plupart des gens, et notamment des politiques, se sont focalisés sur les données elles-mêmes, sur l'étendue, la définition des catégories de données qui sont admissibles ou pas. Et très peu de gens, jusqu'à une date récente, se sont intéressés aux algorithmes de traitement, qui me paraissent un problème beaucoup plus important. Voilà. Donc, et ça, c'est encore de l'histoire, parce que je pense que les choses ont changé depuis quelques années.
Mais c'est moins les data, d'ailleurs, que les algorithmes qui sont problématiques.
Oui.
Merci beaucoup, Pierre Mounier-Koun. Merci de votre intervention, excellente comme d'habitude. Donc, on va faire 10 minutes de pause pour la suite du programme. Je vous invite à regarder le centre de documentation. Un travail remarquable a été fait par nos amis du centre de doc. Et on a aussi une bibliographie analytique à votre disposition. Merci à vous et à tout à l'heure.